Bonjour à tous et bienvenue dans la saison 2 de Feel Guru. Alors cette saison va être un petit peu différente de la première, dans le sens où, vu que j'avais envie d'un petit peu plus de réflexivité, de dialogue et de partage, je vais inviter par épisode un amateur de philo. Le principe en fait sera le même, c'est-à-dire que mon invité nous expliquera un événement qui lui est arrivé, qui l'a potentiellement perturbé, choqué, et on essaiera de l'analyser ensemble sous l'angle de la philo. Alors voilà, je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Yves avec nous. Bonjour Yves.
Bonjour Charlotte.
Yves, tu es animateur du Café Philo à Bruxelles. Et donc, tu es tombé dans la philo à partir de quand?
Oh là. J'ai une petite anamnèse. J'ai un grand frère qui a 5 ans de plus que moi. Donc, je devais avoir 5 ans. Et il me dit, donc lui, il devait en avoir 10. Un jour, il me dit, j'ai un copain, Kim Alain. Alain Bohen, si jamais je me souviens encore de son nom, qui m'a dit « L'intelligence suprême, c'est arriver à ne penser à rien. »
D'accord.
Voilà. Et ça, ça m'a fait tilt. Et ça, c'est la première question philosophique. Est-ce qu'il est possible de ne penser à rien?
Et est-ce que tu as trouvé la réponse, du coup?
Mais je veux dire, il m'est arrivé à une, deux, voire trois reprises dans mon existence de ne penser à rien pendant des périodes qui dépassent le quart d'heure.
Ah oui.
Mais pas davantage.
Oui, donc, oui,
ça
oui.
Veut dire peut-être 45 minutes au total dans ma vie.
Oui, à mon avis, il faut de l'entraînement. Mais du coup, Yves, tu as étudié à l'ULB, tu as une licence en psycho et en pédagogie.
Exact.
Et tu as travaillé pendant longtemps au service de la lutte contre la toxicodépendance, c'est bien ça?
On va dire ça. On a créé dans un centre qui s'appelle Ellipse, qui se trouve, on va dire, entre Charleroi et la Louvière, un endroit, une communauté thérapeutique où les personnes qui étaient désireuses d'arrêter leur toxicomanie, soit pour des raisons judiciaires, soit des raisons personnelles, pouvaient se réfugier et trouver des conditions pour stopper cette dépendance.
D'accord.
Tenter de stopper cette dépendance et idéalement la stopper.
Et toi, tu étais donc thérapeute là-bas?
Exact.
D'accord. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Quel est l'événement qui t'a perturbé, dont tu vas nous parler aujourd'hui?
Perturbé n'est pas le bon mot. Je dirais un élément parmi d'autres qui m'a impacté.
D'accord.
C'est-à-dire, comme tout le monde, j'ai une voiture, comme tout le monde, j'essaye de limiter ma consommation et je passe à la pompe à essence et je vois que le litre d'essence dépasse largement les 2 euros. Et voilà, ça c'est l'événement, mais peut-être je vais plus loin.
Oui, vas-y.
Ce qui m'a interrogé, c'est la ligne de causalité qui a amené cet événement. Donc cet événement n'a pas un impact plus important que pour d'autres citoyens, mais je veux dire, c'est essayer de comprendre ces causalités multiples qui ont amené à cette augmentation radicale du litre de carburant.
D'accord. Tu me disais donc, en préparation donc, du podcast, que ta représentation du monde était de plus en plus aléatoire. Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Mais ça veut dire, en quelque sorte, à travers cet événement, j'ai imaginé la cascade de causalités multiples qui peut amener à cet événement. Prenons un exemple, dans la tête d'un dictateur quelque part, un messager synaptique, une molécule de dopamine, supplémentaire arrive, et puis dans la fente synaptique, dans le récepteur synaptique, et puis cet homme prend une décision. Voilà. Cette décision, impacte toute une chaîne de causalité, l'invasion de l'Ukraine, et on en arrive à impacter, l'économie mondiale. Mais au-delà de ça, quand on se met dans la tête de cet homme de 70 ans, dont les parents ont subi la guerre 40-45, et je veux dire la reconquête patriotique, comme il est dit, en Union soviétique, il y a une représentation du monde qui s'enracine loin dans le passé, en tout cas, je veux dire, et qui elle aussi impacte sans doute sa prise de décision aussi, ainsi de suite, je dirais, et la manière dont l'Europe et les États-Unis ont géré dans les débuts des années 90 l'explosion, la désintégration de l'Union soviétique, je veux dire, aussi a impacté. Donc, c'est essayer, je veux dire, d'essayer de comprendre ces multiples causalités qui dépassent de très loin mes possibilités d'analyse.
Ok, oui, parce que tu me dis que, pour toi, du coup, le monde tel qu'il est difficilement modélisable.
Exact.
Et qu'est-ce que tu veux dire, du coup, par modélisable ? Parce qu'un modèle, c'est quelque chose qui fait référence. Donc, qu'est-ce qui, justement, ne l'est plus maintenant ?
Il me semble, il y a quelques décennies, je veux dire, nous avions tous un modèle pour expliquer le monde. Je veux dire, une espèce de suite logique et cohérente de relations. Par exemple, on était marxiste, donc je veux dire, dans une certaine mesure, je veux dire, c'était la lutte des classes, c'était à l'origine des tensions et qui aboutirait tôt ou tard vers la dictature du prolétariat. Dans une certaine mesure, si on était chrétien, catholique, je veux dire, il y avait aussi une suite de causalités, des relations cohérentes entre différentes choses. Et donc, il y avait des modèles explicatifs du monde en Europe, d'autres modèles explicatifs peut-être en Inde, d'autres modèles explicatifs peut-être pour les aborigènes australiens, mais ces modèles explicatifs étaient cohérents. Et lorsqu'on rentrait dans un système, ils étaient relativement étanches les uns par rapport aux autres, et on avait un modèle d'explication pour mettre ce monde chaotique, dans une certaine mesure aléatoire plutôt que chaotique, en équation et reprojeter une certaine forme de cohérence qui était rassurante.
Tu me dis que la conséquence de tout ça, c'est une inquiétude et finalement aussi une nostalgie par rapport à un monde plus simple, tu me disais.
C'est-à-dire que en moi, j'ai deux réactions qui semblent antithétiques. Une première qui me dit le monde, quand on pouvait l'expliquer et quand on était entouré de gens qui expliquaient le monde de la même manière, il y avait un sentiment de cohérence qui se payait sûrement par l'élimination des contradictions au système, l'élimination, ou bien on ne les voyait pas, une cécité par rapport aux événements qui étaient en décohérence par rapport au système, c'était extrêmement rassurant. Donc en moi, je me dis, c'est rassurant de pouvoir partager une morale, une analyse du monde cohérente avec les gens qui partagent mon environnement proche. D'un autre côté, clairement convaincu que ça se fait, il y a un prix pour ça. Le prix pour ça, cette cohérence, est effectivement une fermeture, un certain type de fermeture au monde. Comme je disais, on évacue les contradictions, on évacue les personnes qui ont un discours, ou bien on les considère qu'on peut arriver à les convaincre, on se met en position de missionnaire. Mais à partir du moment où il n'y a plus pas cette possibilité, on les évacue de notre environnement. Et donc, ça rassure. Mais voilà, le monde est sans doute beaucoup plus complexe qu'il n'en est rêvé dans tous les systèmes d'explication du monde depuis que le monde existe.
Oui, mais est-ce que du coup, ça ne va pas de pair aussi avec le manque de repères, peut-être, actuellement ? Parce que finalement, ce qui permet de s'orienter, c'est nos repères. Quand on est enfant, sur quoi est-ce qu'on arrive à se développer, à avoir confiance en soi, etc. Ce sont nos repères, qui soient des repères en termes d'humain, en termes de localisation, donc de l'utilisation de l'espace, et tout ce qui est temporel aussi.
C'est comique parce que dans repère, il y a plusieurs significations. En réfléchissant bien à ce signifiant, il y a le repère, on va dire la balise, comme un phare, je veux dire, sur une côte qui permet... en fonction de sa luminosité, de sa variation de luminosité, de savoir où on se trouve. Il y a le repère, je veux dire, on va dire, le nouveau paternel, on va dire.
Oui.
Je veux dire, qui manque peut-être aussi, c'est-à-dire la génération d'aujourd'hui s'est souvent vue privée d'un repère paternel, je veux dire, qui, pour plein de raisons, peut-être parce que, ce n'est pas l'objet, mais il y a quand même eu, depuis les années 70, depuis qu'une certaine autonomisation de la femme tout à fait souhaitable, et je veux dire, l'homme a perdu son système d'existence. Il y a ça, il y a repère aussi dans le sens, le repère du fauve, la tanière du fauve.
Oui.
Je veux dire, donc un endroit où on peut se sentir protégé. Je veux dire, il y a cet aspect-là. Il y a repère dans le sens, un autre père, un autre comme moi. On retrouve, je veux dire, dans la mesure où on est fragmenté en plein de systèmes d'appartenance par rapport à la langue, par rapport à l'origine génétique, par rapport à la sexualité, par rapport aux études, etc. Difficile de trouver quelqu'un comme soi.
Oui, tout à fait.
Alors que lorsqu'on habitait dans un village, je veux dire, la plupart des gens étaient dans la même situation. Ils avaient le même genre de boulot, ils étaient agriculteurs, ils avaient le même langage, ils avaient la même nourriture, etc. Donc, ce mot repère est intéressant parce qu'il est polysémique.
Oui, tout à fait. Et finalement, est-ce que tu crois qu'on peut vivre sans repère? Est-ce que du coup, comment est-ce qu'on vit avec cette irrégularité actuelle?
Je n'ai pas expérimenté parce que, si j'essaie d'être honnête, je me trouve toujours des repères. Même si les repères, je les sais fragiles et donc dépassables, mais alors j'en change. Honnêtement, vivre sans repères, c'est peut-être, ça pourrait être un idéal, mais est-ce possible? Est-ce souhaitable? Est-ce parce que, allez, dans les années, par exemple, les années 70, il y avait cette idéalisation du fou qui n'avait pas de repères, une idéalisation complètement absurde, parce que c'est une situation qui est extrêmement flippante, au contraire.
Ouais.
Donc, je pense qu'il n'est pas possible de vivre sans repères, mais par contre, il est peut-être possible de vivre en se persuadant que les repères ne sont que des repères qui ne sont pas absolus et qui se liquéfient dans le temps et qui peuvent reprendre d'autres formes par la suite. Mais les repères sont polymorphes aussi. Ça peut être un repère idéologique, ça peut être un repère amoureux, ça peut être un repère sportif, ça peut être, je veux dire, voilà, ce genre de choses. Donc, c'est très, très polymorphe. Je crois qu'il ne suffit pas de se dire que les repères ne sont pas toujours de l'ordre de l'idée.
Exactement, et je pense que là maintenant, même si les repères du monde, ça me nuise un peu, ben, il est toujours possible de se les créer à soi-même. Et justement, on voit beaucoup de gens actuellement qui se mettent au bouddhisme, qui se mettent plus à l'art-thérapie, etc., pour finalement offrir soit une systématicité, soit une symbolique qu'ils n'ont plus dans le monde. Et donc, ils se les créent finalement ailleurs.
Exact. Oui, c'est clairement une démarche actuelle de retrouver, d'abord il y a ce que moi j'appelle le salafisme, c'est-à-dire dans le sens, c'est ce mot arabe qui veut dire c'était mieux avant, où on idéalise les premiers califes, les premiers...
Les passéistes.
Les premiers adeptes, on va dire, du prophète, ceux qui l'ont suivi, qui étaient bien conseillés, bien guidés. Et donc, il y a ce type de recherche-là, où on trouve dans le bouddhisme une idéalisation. Ça me fait penser qu'il y a 25 ans, comme je voyais ces bouddhistes européens qui rajoutaient une couche de superstition asiatique sur leurs propres illusions européennes. J'avais vraiment cette impression qu'ils rajoutaient des lunettes solaires sur des lunettes solaires sur des lunettes solaires, et finalement...
Exactement.
Comme des aveugles dans le noir, et dès qu'ils voyaient, par exemple, un bouddhiste tibétain qui semblait avoir toutes les caractéristiques, une toge orange, tout d'un coup, ils se précipitaient et projetaient sur lui tout un idéal auquel le gars disait « Mais non,
c'est pas ça.
Je suis un mec qui essaye de se débrouiller comme tout le monde. »
Oui, on projette finalement ce qu'on veut bien voir, ce dont on rêve, etc.
Même chose, je veux dire, et à côté de ça, lorsqu'on choisit un chemin qui nous rassure, qui met, on va dire, ce chaos peut-être apparent en musique, on a, on a tendance à se, j'essaie de trouver un mot, à suivre cette doctrine et quelque part à diaboliser les autres. Et ça, c'est extrêmement dangereux. C'est-à-dire, et on peut trouver ça dans l'écologie, je veux dire, on peut trouver ça dans la religion, on peut trouver ça dans toutes ces thérapies, je veux dire, qui mettent du sens. Je veux dire, pour moi, je veux dire, la pensée positive, par exemple, on ne voit plus que de la pensée positive. Moi, j'ai jamais rencontré des gens aussi malheureux que les gens qui sont adeptes de la pensée positive.
Mais tu crois pas que c'est parce qu'aussi les gens se mettent une pression pour arriver, je sais pas, au bonheur, etc. Et plus on se met la pression, on se dit, mais pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi j'y arrive pas? Et finalement, ça devient le moteur de pourquoi on se lève tous les jours le matin, et ça nous rend malheureux finalement.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Charlotte. On va dire que la dictature, il y a quelque chose dans la société dans laquelle on vit, cette obligation d'être heureux. Et si tu n'es pas heureux, ce n'est pas normal. Donc c'est parce que tu as des blocages, des inhibitions, parce que tu n'assumes pas ceci ou tu n'assumes pas cela. Et effectivement, c'est extrêmement flippant. C'est-à-dire, non, je veux dire, quand on parlait de repères, on va dire que la tristesse et le bonheur sont deux repères dans le sens, si on, je veux dire, et comme en navigation, pour pouvoir trouver son chemin, je veux savoir où on se trouve, il faut deux repères. Et ces deux repères qui sont, je veux dire, au moins aussi vieux que les premiers mammifères, je veux dire, permettent de cartographier notre univers mental. Et se couper de la tristesse, ou pire encore, la considérer comme une maladie qu'il faut soigner
C'est ça.
avec des médications et ce genre de choses-là. C'est vraiment se trouver en errance, puisqu'on n'a plus cet aspect-là de la vie qui nous permet de nous situer.
Et alors, tu me disais en préparation aussi du podcast que tu espérais que ce monde prenne sens en intégrant en fait le caractère aléatoire. Alors, ça veut dire quoi ça? Pour toi, c'est quoi le sens?
Ah, ouh là là! Comment je dirais? Le caractère aléatoire du monde, il était déjà présent 380 000 ans après l'origine de l'univers, on va dire le Big Bang. Lorsque l'on regarde le monde à partir de télescopes et qu'on cartographie ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique, qui est à 2,72 degrés Kelvin, c'est-à-dire
D'accord.
très froid,
C'est précis.
et qu'on arrive à se rendre compte qu'il y a des petites variations de température de quelques millièmes de degrés Kelvin, et qu'on les cartographie, ce qui a été fait, on se rend compte que notre univers, dès le départ, n'était pas homogène. Avant même que notre univers devienne perméable aux photons, je ne vais pas faire un cours de
Non,
physique,
non.
mais je veux dire, il y avait déjà de l'aléatoire, parce que notre univers n'était pas homogène. Et donc, cette inhomogénéité, est inscrite même dans la nature du monde. Depuis ce moment-là, en tout cas, et sans doute bien avant. Ce qu'on retrouve aussi dans des équations comme les équations d'Heisenberg, de Werner Heisenberg, voilà. Cette incertitude fait partie de notre monde. Mais qu'on soit financier, qu'on soit avocat, qu'on soit psy, qu'on soit facteur, on a horreur de l'aléatoire. Je veux dire, et dès qu'il y a de l'aléatoire, il y a une certaine montée d'angoisse. Par exemple, en venant ici, tu t'es trompé, il y avait quelque chose de l'ordre de l'aléatoire. On ne peut pas faire l'économie d'une petite montée d'adrénaline ou quelque chose comme ça,
Tout à fait.
ou de noradrénaline,
Oui,
plus
c'est vrai.
exactement. Et donc ça, c'est intéressant. Donc je veux dire, mais il y a quelque chose en moi, de nature animale, qui cherche à ne pas vivre d'aléatoire. Or, je sais que c'est dans la nature des choses. Il y a quelque chose, une contradiction chez moi, donc on revient à la contradiction qui a été mise, je veux dire, en lumière par cet événement-là.
Et donc pour toi, il peut y avoir et du sens et de l'aléatoire en même temps. Les deux ne sont pas aux antipodes l'un de l'autre.
C'est une excellente question, mais savoir où commence la frontière de l'un par rapport à l'autre. Effectivement, je pense que la nature même de la vie, si je veux dire, on voit les plantes, il y a effectivement, je veux dire, un plan commun, un chêne, un lierre, je veux dire, de l'origan comme sur la table.
Du basilic.
Du basilic, pardon. Mais je veux dire, il y a aussi, donc on le reconnaît, le basilic en l'occurrence.
Oui. Enfin,
merci. Mais il y a aussi de l'aléatoire qui lui permet de faire face justement aux variations. Pour que, voilà, et oui. Donc les deux doivent se combiner. Mais peut-être que cette perception, je veux dire, est un peu idéaliste, un peu... Voilà, je ne sais pas. C'est vraiment une question à laquelle je n'ai pas vraiment de réponse, si ce n'est qu'il me semble que toute forme de vie tend à limiter l'entropie. C'est-à-dire toute forme dans cet univers-ci, il me semble que s'il y a de l'aléatoire s'articule avec le non-aléatoire, quelque part, c'est une façon de limiter l'entropie. Par exemple, je veux dire, les feuilles du basilic se développent plus du côté de la lumière. Les feuilles sont plus grandes aussi pour pouvoir capter davantage des photons pour créer de la photosynthèse, etc. Mais il semble que donc le plan général de tout système de vie et peut-être même tout système physique tend à limiter la déperdition d'énergie, la perte d'énergie, pour la maximaliser, pour stocker, je veux dire, un maximum d'énergie avec un minimum de dépenses énergétiques. Il y a quelque chose dans notre manière de fonctionner et peut-être que dans cette gestion de l'entropie, il y a un point de contact, un point d'articulation entre l'aléatoire et le déterminé.
C'est marrant parce que mon conjoint m'appelle entropie, parce que je me disperse. Donc comme quoi, c'est peut-être pas le propre de l'homme, enfin de tous les hommes.
Comique parce que moi, quand j'étais gamin, pendant, je devais avoir, je sais pas, on va 12, 13 ans, mes camarades de classe m'appelaient Micmac pour dire que t'es un bordélique, quoi, en quelque sorte.
Tu es un bon quoi?
J'étais bordélique, donc
Micmac,
je veux dire,
ah oui, c'est
ils m'appelaient comme ça dans la cour de récréation.
Et donc comme quoi, l'entropie, voilà. Et tu n'es pas un nihiliste? Tu ne te dis pas qu'on a perdu, qu'on n'a pas le sens, que le monde n'a pas de sens, que la vie n'a pas de sens?
Non, justement, je pense que cette gestion de l'entropie qu'on retrouve d'ailleurs beaucoup dans ta génération, hein, je veux dire, de plus en plus, je pense que l'idée de gérer au mieux l'énergie, gérer au mieux sa vie, est quelque chose d'extrêmement positif et c'est quelque chose qui est inscrit même dans la structure de l'univers. Je veux dire, c'est absurde ce que je veux dire et j'en suis conscient, mais quoi les astres sont-ils à partir d'une certaine, une certaine densité, une certaine masse plutôt sphérique, pour limiter leur entropie? Parce que, je veux dire, et donc il y a quelque chose là, quelque chose qui met du sens, quoi. Je veux dire, un cerveau bien organisé dépense beaucoup moins de glucose qu'un cerveau, je veux dire, qui ne l'est pas. Par exemple, un mathématicien, je veux dire, utilisera beaucoup moins d'énergie pour résoudre une équation que moi, par exemple.
Ouais.
Et donc, il y a quelque chose là de... Peut-être qu'on peut se poser la question aussi, et ça, je ne sais pas si c'est extrêmement bienvenu de le dire ici, mais peut-être que l'être humain devrait se poser la question aussi, est-il utile de se proliférer à tel point?
Maintenant,
se dire qu'il y a peut-être un problème à résoudre là, au niveau même de l'espèce.
Ça me fait penser un peu aussi à la contingence de Sartre, qui dit qu'en gros, les êtres ne sont pas nécessaires. Et en fait, la Terre, elle est telle qu'elle est, mais elle aurait très bien pu être autrement. Donc moi, ça me fait penser un petit peu à ça aussi, tout ce que tu viens d'évoquer.
Oui, en fait, si je pourrais faire une conclusion, ma conclusion philosophique, parce que cette question a été travaillée 350 ans avant Jésus-Christ par deux écoles, les stoïciens et les épicuriens. Pour les stoïciens, on vivait dans un monde extrêmement organisé, le mot cosmos, hein, je veux dire, vient d'une organisation,
donc,
où les divinités avaient créé un monde organisé, où tout avait sa place, sa juste place. Puis, au même moment, ou peut-être une décennie plus tard, les épicuriens considèrent que ce n'est pas le cas. Il y a, et c'est une vision beaucoup plus actuelle, celle des épicuriens, qu'on est dans l'univers, une espèce de chute de ce qu'ils appellent les atomes, qu'ils avaient pris sans doute précédent aux atomistes, qui tombaient en ligne parallèle, qui ne se touchaient jamais, mais il y avait un phénomène aléatoire, ce qu'ils appelaient le clinamen, qu'on retrouve dans inclination, dans le mot inclination, qui de temps en temps, très rarement, faisait dévier ces atomes de leur trajectoire parallèle et créait une complexité. Voilà, je veux dire, là, donc, cette question-là qui nous occupe aujourd'hui est une question qui occupait les Grecs du 4e siècle avant Jésus-Christ. C'est étonnant, quand même, on remplace incertitude quantique par clinamène par incertitude quantique ou par fond diffus cosmologique. Donc, cette question fondamentale nous relie à nos ancêtres.
Bien sûr, c'est assez marrant parce que le premier philosophe occidental qui a parlé du sens, en général, c'est Anaxagore. Et donc, c'est en 450 avant Jésus-Christ. Et lui, il disait que toute chose était ensemble et qu'ensuite vint l'intelligence qui mit de l'ordre. Enfin, c'est quand même c'est étrange. Et donc, oui, c'est vrai qu'après, il y a des philosophes plus rationalistes qui disent ben oui, le sens, il est omniprésent, c'est sûr. Par exemple, on a Leibniz qui va lui dire ben voilà, il y a une raison aux choses. Elles ont un sens, même si on ne connaît pas vraiment les raisons de ce sens. Tu disais, j'ai une nostalgie donc, dans un monde simple où tout événement a sa place dans une doctrine. Et pour toi, c'est quoi un monde simple ?
Mais ça, c'est le monde des stoïciens, je veux dire, qui aurait été... Et qui a... J'ai défendu un peu le point de vue opposé, celui des épicuriens, mais ce monde, il m'arrive aussi de me dire que l'univers dans lequel on fonctionne, je veux dire, c'est constante, comme la constance de Planck, comme la vitesse de la lumière, 299 790... dans 458 mètres par seconde.
D'accord.
La constante de Planck, voilà. Et je veux dire le poids, la masse du proton, je veux dire, c'est quelques constantes. La constante de gravitation, je veux dire, serait à l'origine été fusionnée et que le monde aurait été créé en séparant les choses. La complexité a pu naître à partir du moment où un monde qui aurait été infiniment homogène s'est vu fracturé, peut-être par quelque chose comme le clinamen. Mais peut-être qu'au départ, les choses avaient une entropie nulle. C'est un peu le discours aussi de Georges Lemaître, qui était un carolorangien, un homme de Charleroi, je veux dire, qui habitait à Woluwe, non loin d'ici d'ailleurs, je veux dire, déterminait que l'atome primitif avait une entropie égale à zéro. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement étonnant. Et quelque chose d'extrêmement rassurant aussi, de se dire que l'homme, en tout cas dans ses productions intellectuelles, je veux dire, sans racines et comme des filiations d'idées qui traversent les siècles, qui traversent les millénaires et qui traversent... C'est quelque chose d'extrêmement rassurant et des fois, je me sens en... Je lis un auteur et je me sens en filiation, vraiment en filiation avec un auteur. Et c'est un côté, je veux dire, où j'ai dit, mais c'est un pote. Peut-être qu'il a vécu il y a 2000 ans.
Oui,
mais c'est, on pense tu vois, de la même manière exactement. Avec d'autres termes, avec d'autres mots, avec d'autres exemples. Mais on pense de la même manière.
Et quand tu dis j'ai la nostalgie dans le monde simple, c'est pas parce que toi tu as vécu ce monde simple. C'est parce que tu l'as analysé, en fait. Ou c'est les deux ?
Je n'ai jamais vécu dans un monde simple.
Ok.
Depuis ma naissance, le monde a été quand même dans une certaine mesure relativement compliqué. Et donc, j'ai essayé de le simplifier. Et pour le simplifier, j'essaie, des fois maladroitement, des fois un peu plus chanceusement, de le mettre en équation pour effectivement le modéliser et me sentir un peu plus à l'aise dans ma négociation avec lui. Oui, quelque chose de cet ordre-là.
Qu'est-ce qui aujourd'hui, toi, te rassure fondamentalement ?
Qu'est-ce qui me rassure ?
Moi, j'ai certaines choses comme ça, je sais, par exemple, le minimalisme, le fait de ne pas avoir trop d'affaires, ça me rassure, ça m'apaise. Le fait d'agir comme moi je peux par rapport à certains troubles dans le monde, mais à mon échelle, ça, ce sont des choses qui me rassurent parce qu'autrement, je me sens un peu impuissante, quoi, on va dire.
Je pense que l'affection de mes proches, me rassure énormément. Je pense que justement cette idée d'essayer de comprendre le monde et de me dire que quelque part je peux affiner mon analyse du monde, c'est peut-être une illusion aussi, hein, mais ça me rassure aussi. Peut-être le fait de ne pas être dans la misère me rassure aussi. Quand on a connu la misère, c'est assez rassurant de ne pas être confronté.
Et même intérieurement, il y a une misère intérieure.
Il y a une misère morale aussi, oui. C'est vrai, le fait d'essayer d'être cohérent.
Oui, tout à fait.
Je vais entre les idées, ma manière d'exister, de manière de vivre, je sais qu'il y a des tensions, hein, je ne suis pas en train de dire que sinon on est dans l'illusion. J'essaie de limiter un peu les tensions, par exemple entre ma morale et mes désirs, ce genre de choses-là, ça me rassure.
Mais d'ailleurs, le Dalai Lama affirmait que le premier pas d'ailleurs pour faire cesser la guerre dans le monde, c'était en fait de la faire cesser d'abord en soi, parce qu'on est plein de contradictions.
Oui, et quand on est en contradiction, comme on est des êtres humains, plutôt que de considérer que ces contradictions sont comme des métaux dont on va faire un alliage, on a plutôt envie de le métal vil, de le projeter sur l'autre.
Tout à fait.
Et dès lors, il n'y a plus possible de les fusionner, puisque l'autre... Et ça, il faut qu'on soit chacun fort attentif à ça, parce que dans mes réflexes primitifs, c'est ce que je fais, bien sûr.
Et on projette aussi très souvent nos propres peurs. Donc, on veut les éviter, et alors on les voit partout.
Oh, ça, c'est incroyable.
Ça,
c'est incroyable. Je vois des gens qui ont peur des chiens. Ils se font mordre. Alors, il y a comme ça une espèce de cercle vicieux. Je me rapproche d'un chien, mais je tremble et je me dis donc que j'ai des mouvements qui sont tout le contraire de fluide.
Oui, c'est ça.
Le chien, il perçoit ça. Qu'est-ce qui se passe? Il mord.
Il stresse.
La fois suivante, j'ai encore plus peur. Je tremble encore plus. Et on se retrouve perdu dans un système.
Hein. Oui, c'est ça, complètement.
C'est incroyable. Ou alors, les hommes battus, pour ne pas parler des femmes battues, parce qu'il faut garder une... on n'en parle plus. C'est qui tombent chaque fois dans un même système. Mais je vais me faire protéger par mon prochain compagnon du précédent qui me tapait. Je vais en prendre un bien costaud.
Oui, c'est ça, oui.
Et qui a bien tatoué. Et puis, paf, rebelote. On a tous des systèmes comme ça.
Oui, c'est ça. Comme petit mot de la fin, je vois que le temps passe. Qu'est-ce qui pour toi est une espérance dans un avenir meilleur?
J'aimerais bien, nouveau avec cette idée de minimalisation d'entropie, lorsque je fais du catamaran, je vais retrouver de plus souvent possible une juste adéquation entre les mouvements de l'air, hein, ce qu'on appelle le vent, les courants marins, et arriver à négocier au plus juste ces deux fluides qui bougent dans des directions souvent différentes, de telle manière à créer le chemin le plus rapide possible et générer le moins possible d'entropie dans ma pénétration dans l'air et dans l'eau.
Okay.
Voilà. Allez, d'une manière, pour terminer, une petite image, je dirais que l'air, de manière symbolique pour moi, ce sont l'actualité, les événements de l'actualité dans la culture dans laquelle je vis qui bougent tout le temps. Mais auxquels il faut s'adapter et qui ne sont pas vraiment prévisibles, ou en tout cas prévisibles par la météo. Les mouvements marins, qui sont eux extrêmement prévisibles. Donc ces deux tensions, entre cette prévisibilité des courants marins qui ont un rythme et qu'on peut prévoir, l'air qui n'en a pas, l'interface entre les deux qui sont les vagues, qui sont aussi de l'aléatoire, mais arriver à gérer ces deux fluides de telle manière à minimiser l'entropie et aller vite.
Ok, donc la vitesse, ça c'est quelque chose qui te parle. Eh bien, en tout cas, Yves, merci pour ta participation, pour ton temps. Merci à vous aussi tous les auditeurs. J'espère que vous avez apprécié l'échange et que ça vous a donné matière à réflexion, même si je n'en doute pas. On se retrouve donc dans 2 semaines pour un nouvel épisode et donc une nouvelle interview. Merci beaucoup. Au revoir.